Je vous invite à vous tourner avec moi dans la lettre aux Hébreux. Nous arrivons progressivement à la fin de cette grande épître. Nous allons nous attacher aux versets 19 à 25 ce matin. Et on va... chapitre 10, verset 19 à 25, et on va d'abord prier pour remettre l'étude au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Tu as permis qu'elle arrive jusqu'à nous, Seigneur, sans être abrégée ou sans que rien n'y soit ajouté, Seigneur, on a même scientifiquement la preuve qu'elle est telle que tu l'as voulu pour nous, Seigneur. Et c'est avec l'aide de ton esprit que nous voulons l'aborder ce matin, encore une fois, pour qu'elle soit véritablement annoncé justement, que nous n'ayons pas à rougir de la façon dont nous la lisons, Seigneur, mais qu'elle soit fidèle à l'intention que tu avais en l'inspirant par l'Esprit Saint à cet auteur dont nous ne savons pas exactement l'identité. Mais Seigneur, c'est toi, c'est par ton Esprit Saint qu'elle a été mise sur des supports et qu'elle nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Nous l'abordons avec respect, avec le plus grand respect, Seigneur, et nous ne voulons pas l'enfermer dans nos concepts, nous voulons qu'elle puisse nous parler librement, que ton Saint-Esprit soit là pour la restituer dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église, dans la vie de chacun individuellement. Seigneur, merci pour ce temps spécial dans ta parole. Seigneur, nous voulons aussi penser à tous nos frères et sœurs dans d'autres assemblées, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, Seigneur, et de par le monde, qui eux aussi se mettent à l'écoute de ta parole, Seigneur, pour être informés, mais surtout transformés, Seigneur. Continue ton œuvre dans nos vies, dans ma vie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à l'expliciter pour mes frères et sœurs, sachant que c'est ton Esprit Saint qui est l'enseignant véritable, Seigneur. Sois glorifié. Sois béni. Par le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Une des émissions de télévision qui me semble la plus ennuyante, c'est celle où on assiste au tirage au sort du loto. On voit des boules qui sont mélangées dans une machine en plastique, et puis il y a une petite boule qui sort, plouf, et ça commence à rouler. Puis à la fin, on nous donne le numéro, les numéros de substitution aussi qui vous permettent de pouvoir réclamer ce gros lot. Alors je pense que c'est très ennuyant parce que je ne joue jamais. À chaque fois, je gagne le prix que j'aurais payé pour avoir un bulletin, mais c'est pas grand-chose. Donc je pense que si on joue au loto, on doit être très, très passionné et très excité de voir quel va être le numéro. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils savent dire si quelqu'un a gagné ou pas, parce qu'ils ont l'ordinateur qui leur dit « oui, le billet qui correspond à ce numéro a été acheté ou pas ». Et ce qui est le plus navrant, c'est que des fois, ils disent qu'il y a quelqu'un qui a gagné le loto, mais il se trouve que ce lot n'est pas réclamé par la personne qui avait le billet gagnant. Et ça, c'est triste. parce que je me souviens d'une occasion où il y avait 150 millions de francs à l'époque, donc près de, on va dire, 20 millions d'euros, qui avaient été laissés sur les caisses de la Française des Jeux. Ça représentait à peu près l'équivalent de 100 000 francs. À l'époque, c'était des francs, mais ça fait, donc on divise par 6, ça fait 20 000 euros par mois qui étaient négligés, qui étaient laissés pour compte. Et le passage aujourd'hui nous met en garde contre un problème similaire. Ce serait celui qui consisterait à négliger l'accès que nous avons à Dieu. Dieu a payé très cher, par son sang, il nous dit, pour que nous ayons un libre accès à lui. Et même pour les incroyants, même pour les athées, si vous leur demandez si je pouvais t'indiquer comment avoir accès à Dieu, est-ce que ça t'intéresserait ? Alors d'abord, ils vont vous dire, mais je ne crois pas en Dieu. Et vous pouvez continuer, mais supposons que Dieu existe. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir comment avoir accès à ce Dieu s'il existe ? Et mon expérience, c'est que la plupart des gens aimeraient avoir accès à un Dieu s'il existe. Et nous avons vu, nous avons rappelé que dans l'ancienne alliance, l'accès à Dieu était quelque chose de pas évident. L'accès à Dieu, c'était sur terre, il fallait passer par le tabernacle qui a été ensuite construit en dur sous le nom de temple, le temple à Jérusalem. Et on l'a rappelé plusieurs fois, c'était pas n'importe qui pouvait avoir accès à Dieu. Si vous étiez une femme, vous deviez rester à l'écart, à la porte des femmes. Si vous étiez un païen, vous deviez rester à l'écart du temple, vous n'aviez pas le droit de vous approcher du temple. Mais on a répété, si vous étiez un homme et un croyant, un juif, à ce moment-là, vous pouviez laisser derrière vous pas mal de monde et approcher. Mais très vite, on vous disait, est-ce que vous êtes un prêtre ? Si vous n'étiez pas un prêtre, vous deviez vous arrêter là, et l'accès à Dieu, ce n'était pas pour vous. Alors vous disiez peut-être, mais c'est formidable, je suis un homme, je suis un juif, et je suis un prêtre. Ah, je vais pouvoir accéder à Dieu. Non, là encore, vous pouviez vous approcher d'une certaine façon, vous pouviez entrer dans le lieu saint, mais vous ne pouviez pas entrer dans le Saint des Saints où demeurait la présence de Dieu sur terre. Et ça, c'était réservé à une seule personne sur toute la terre. C'était ce qu'on appelait le grand prêtre qui devait descendre de la famille d'Aaron, des Lévites, et qui avait le droit d'entrer dans ce Saint des Saints. Mais ça, même, ça ne lui était pas permis tous les jours. Ça lui était réservé une fois par an, ce qu'on appelait le Yom Kippour, ou le jour des expiations. Et encore, pour entrer, fallait-il qu'il offre des sacrifices, qu'il offre un sacrifice pour lui, parce qu'il était pécheur. Donc il devait, avant d'entrer dans la tente qui représentait le saint lieu et le saint des saints, il devait offrir un sacrifice sur l'autel d'airain qui se trouvait dans le parvis du tabernacle. Et après, il pouvait, avec ce sang, approcher. Et là, une fois qu'il avait offert ce sang, il pouvait offrir le sang d'un taureau pour l'expiation des péchés du peuple. L'expiation, c'est simplement que jusqu'à l'année prochaine, le sang allait couvrir, recouvrir leurs péchés et qu'ils pourraient, dans leur prière, dans leur vie, avoir une certaine relation avec Dieu. Et c'était quelque chose d'effrayant d'entrer en présence de Dieu. Le Dieu qui a créé les galaxies, qui a créé les cieux et la terre, qui a parlé et les galaxies se sont matérialisées. Lui qui peut faire à partir de rien, qui peut tout faire. Lui qui nous a créés, nous sommes ses créatures. Entrer en sa présence, c'était quelque chose de très inquiétant. Et il est dit que lorsque le grand prêtre, qui ne le faisait qu'une fois par an après avoir offert du sang pour ses péchés, et qui venait offrir le sang pour les péchés du peuple, il était tellement peu sûr d'être accueilli positivement par Dieu que la tradition dit qu'on lui attachait une cordelette au pied. Il avait une robe avec des grelots, des clochettes, qui faisait du bruit tant qu'il bougeait dans le Saint des Saints. Mais si au bout d'un moment on n'entendait plus de son, on pensait que Dieu n'avait pas accepté son sacrifice, c'était une mauvaise nouvelle pour tout le monde, et là on essayait de le retirer en tirant la cordelette. Pour vous dire la confiance qui régnait, c'était quelque chose de très inquiétant. Et aujourd'hui, dans le passage que nous allons lire, ce qui est intéressant pour ceux qui s'intéressent à la grammaire, c'est que du verset 19 au verset 25, il y a une seule phrase. Une seule phrase, c'est une indication qui fait dire à certains que ça devait être vraiment l'apôtre Paul qui avait écrit la lettre aux Hébreux. On n'est pas sûr que ce soit lui, mais Paul avait l'habitude d'écrire des phrases très longues. Il était tellement passionné par ce qu'il avait à transmettre qu'une fois qu'il était lancé, il était difficile de l'arrêter. Et là, si vous voulez lire avec moi, on va essayer de suivre cette longue phrase. Je lis à partir du verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » On s'arrête, on respire, on reprend notre respiration. On passe ici, en fait, dans la lettre aux Hébreux, à une nouvelle partie. Les lettres que l'on trouve dans le Nouveau Testament sont souvent construites avec une première partie qui donne des vérités, des affirmations théologiques sur notre relation avec Dieu, sur ce que Dieu a fait pour les hommes. Et puis, la deuxième partie des lettres, après une partie doctrinale, ça va être une partie pratique où il nous est dit ce que nous devons faire en retour. La Bible ne nous demande jamais de faire des choses sans savoir pourquoi on les fait. Elle nous explique le pourquoi du comment. Et dans la lettre aux Hébreux, on a vu plein de choses. On a vu que Jésus était supérieur à tout ce qu'on pouvait imaginer. On appelle cette lettre la lettre aux Hébreux parce qu'elle était écrite à des Juifs qui s'étaient convertis à la foi en Christ. Mais la persécution arrivait, ils avaient des difficultés à vivre cette foi, et leur tendance était de dire « Tout ça c'est bien beau, mais c'était mieux avant. C'était mieux avant, on va revenir à ce qu'on connaissait. » Et donc ils étaient prêts à rejeter Jésus-Christ et à revenir à l'ancienne alliance. Avec les sacrifices qu'il fallait offrir, on a parlé du sacrifice du jour du Yom Kippour, mais il y avait des sacrifices journaliers à offrir. Et sans cesse, il fallait offrir ces sacrifices. Et l'auteur de la lettre veut interpeller ces Juifs qui commencent à douter de Jésus-Christ pour leur dire qu'en fait, Jésus-Christ est top, il n'y a rien de mieux. Et par là, il veut nous convaincre aussi qu'il n'y a rien d'autre qui mérite notre dévotion, notre consécration, notre vie, que Jésus-Christ lui-même. Il y a plein de choses qui se pressent dans nos vies et qui demandent notre attention. Plein de choses pour lesquelles on peut se passionner, plein de choses pour lesquelles on peut décider de vivre sa vie. On peut se lancer dans des études et décider que avoir un doctorat en mathématiques appliquées, ça peut être fantastique. Ça peut être très intéressant, mais certains vont y consacrer leur vie. D'autres vont dire, moi c'est d'être aussi puissant que Donald Trump. Je vois que certains sourient. On ne va pas élaborer, mais certains peuvent être attirés par la puissance de dire, je tape sur la table et tout le monde obéit. D'autres, ça va être les plaisirs. Ça va être la philosophie de Playboy. La vie est formidable si on s'amuse et si on a tout ce qu'on veut. D'autres, ça va être justement la richesse. Je viens d'apprendre que le propriétaire, le fondateur de Amazon, il y en a qui connaissent Amazon, qui commandent des choses en ligne, tous ces petits cartons là, vous avez fait de lui la deuxième personne la plus riche du monde. Je crois que la première, c'est toujours Bill Gates, avec Windows et l'argent qu'il a su placer depuis. Mais certains se disent, ah si seulement je pouvais être aussi riche que Jeff Bezos ou Bill Gates. Et l'auteur de la lettre veut nous dire, non, 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 vous faites fausse route. La chose, la personne la plus importante, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Luc, dans le livre des Actes, dit à un moment que, et c'est Paul en fait qu'il cite, « Je sais qui j'ai connu et qui mérite ma vie, ma passion. » Il est important de savoir que vous suivez quelqu'un et que vous ne suivez pas une doctrine. Vous pouvez faire confiance à Dieu, vous ne pouvez pas faire confiance à ce que vous connaissez de Dieu, dans le sens où votre connaissance, elle va toujours rester imparfaite. Mais Jésus, Dieu, lui, est parfait. Donc, si vous mettez votre confiance en quelque chose, vous voulez mettre votre confiance en quelque chose qui est parfait. Et vous pouvez mettre votre confiance en Christ, en Dieu, même si votre connaissance de lui est imparfaite, parce que lui, vous savez, et l'Esprit Saint nous parle pour nous dire qu'il est parfait. Et donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans cette même dynamique, nous dit que Jésus est plus grand, qu'il est d'abord le Fils de Dieu, qu'il est Dieu incarné, qu'il est supérieur aux anges, qu'il est supérieur aux prophètes, qu'il est supérieur aux prêtres, qu'il est supérieur à Moïse, qu'il est le c'est notre grand prêtre parfait, et ainsi de suite. Il nous parle de la nouvelle alliance, la nouvelle façon d'avoir une relation avec Dieu qui est supérieure à celle de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est basée sur la perfection de ce que Dieu a fait, alors que l'ancienne alliance était basée sur notre réponse à ce que Dieu nous demandait de faire. Et là, il nous interpelle. Il nous a dit au début du chapitre 10 que le sacrifice de Jésus avait été offert une fois pour toutes, qu'on n'avait plus à offrir de sacrifice. Et nous, ça ne nous parle pas, parce que ce matin, vous n'êtes pas dit, tiens, aujourd'hui, je devrais offrir un lapin en sacrifice pour me faire pardonner mes péchés. Parce qu'il y a 20 siècles de christianisme, ils nous ont appris qu'en fait, c'est Dieu qui était celui qui avait pris la punition que je méritais. Je n'ai plus à offrir de sacrifice. Pour les juifs qui étaient esclaves de ce service, de cette religiosité, de cette religion, c'était révolutionnaire, complètement révolutionnaire. Et là, il nous dit donc que nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Il nous dit ainsi donc, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Il veut d'abord montrer qu'il est sa proximité avec son audience, avec ceux qui lisent ou ceux à qui il parle. Vous êtes des frères et sœurs, et nous, tous ensemble, nous avons l'assurance, nous avons la certitude que nous pouvons accéder à Dieu lui-même. L'assurance, c'est le mot qui désigne la liberté de parole. C'était le même mot qui était utilisé pour parler du droit du citoyen de parler librement dans les assemblées démocratiques. C'était la liberté de parler sans retenue, sans réserve. Et ça impliquait un courage, une confiance, une audace, une assurance qui n'était en rien de l'arrogance. Nous avons la liberté de dire tout ce que nous pensons, de tout ce que nous voulons à Dieu. Dieu a les épaules solides. S'il y a des choses que vous ne trouvez pas justes, vous pouvez le lui dire. Vous pouvez exprimer vos frustrations à Dieu. Il est tout puissant et il le souhaite. Il vaut mieux aller à lui pour exprimer vos doutes, vos questionnements, que d'aller chercher un autre homme, une autre femme pour parler de ces choses. On va voir que c'est une partie importante, la communion fraternelle. Il va y faire allusion dans le dernier verset qu'on a lu. Mais sachons que vous pouvez tout dire, que nous pouvons tout dire à Dieu. Même lui dire pourquoi on est tenté, pourquoi on a succombé à la tentation, pourquoi on a manqué de foi, pourquoi on a douté de lui. Dites-lui, ça vous fera du bien, et il pourra vous parler. Si vous prétendez que vous êtes pieux, que vous êtes saint, que vous avez failli une fois, mais plus jamais on vous y reprendra, vous n'allez pas le tromper, vous allez vous tromper vous-même, et ça ne va pas vous faire de bien. Et j'aimerais vous rassurer, lorsque je vous parle du texte inspiré par le Saint-Esprit, il s'adresse aussi à moi. Et je n'ai pas tout maîtrisé, je ne viens pas vous dire « faites comme moi ». Je dis « voilà ce que Dieu nous demande de faire ». Et il me demande de le faire aussi. Et moi aussi, il y a des choses dont je n'aime pas trop lui parler. J'aime bien parler de mes péchés globalement, j'aime pas être trop précis. Mais lui, il me dit, tu peux tout me dire. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. On peut vraiment tout lui dire. C'est un accès qui n'est fermé en rien. Et le sanctuaire, c'est là où Dieu est. C'est là où se trouve Dieu. Le sanctuaire dans l'Ancienne Alliance, c'était le tabernacle, c'était le lieu saint et le Saint des Saints. C'était dans le Saint des Saints qu'il se trouvait. Le sanctuaire, maintenant, c'est là où il est maintenant. C'est dans les cieux, c'est dans le paradis, c'est dans... Et le sanctuaire, nous sommes tous le temple de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, on le trouve en nous. Ce n'est pas nous qui sommes des petits dieux ou des grands dieux, mais Dieu a décidé de venir habiter en chacun de nous. Et tout à l'heure, je disais qu'on ne peut pas le voir par nos yeux, mais on peut l'entendre par nos cœurs. On peut le voir par nos cœurs si on se tourne vers lui, ici-bas, sachant qu'il est tout-puissant, qu'il habite les cieux, toutes les dimensions spatiales, géographiques, temporelles que vous pouvez imaginer, Dieu est là. Dieu est tellement puissant que nos imaginations doivent avoir le vertige devant Dieu. En ce moment, j'ai un jeu que j'aime bien faire avec Daphné, ma petite fille, c'est de la prendre et de tourner sur place, avec de la musique, et après de la laisser marcher. J'ai du mal moi-même à me tenir debout. Dieu, ça ne le gêne pas si on réalise qu'il est si grand qu'on en a le vertige et qu'on a du mal à se tenir debout. C'est quelque chose de bien. Si vous pensez que vous avez mis Dieu dans vos carrés, dans vos boîtes, dans vos équations, alors il n'est pas Dieu. Dieu, il doit nous donner le vertige. Mais un vertige sain, pas un vertige qui nous fait mal, un vertige qui nous émeut, qui nous remplit d'allégresse, de joie, de bonheur, de savoir qu'il y a un Dieu qui est si puissant et en même temps, la parole me le dit, c'est un Dieu qui m'aime. On a un libre accès au sanctuaire et il a été ouvert par le sang de Jésus. Encore une fois, c'est pas par mon mérite, c'est pas parce que je vais à Calvary Chapel à Nice que j'ai accès à Dieu, c'est pas ma couleur de peau, c'est pas parce que j'ai reçu une éducation telle ou telle. C'est pas parce que je suis gentil que j'aime aider les gens. C'est pas pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Vous avez autant accès à lui que le pape, que Billy Graham, un grand évangéliste, que n'importe quel pasteur, que n'importe quel missionnaire. Vous avez souvent les gens vous demandent est-ce que tu peux prier pour moi, pasteur? J'ai dit, mais je veux bien, mais sache que tu as accès à Dieu de la même façon que j'ai accès à Dieu. Je n'ai pas de privilège. Mon seul privilège, c'est de pouvoir étudier la parole, de pouvoir l'enseigner, de pouvoir être plongé dedans et d'en retirer des moyens de subsistance. Ça, c'est un grand privilège. Mais il n'y a pas besoin d'être pasteur à plein temps, d'en vivre. Tout le monde a accès à Dieu sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. On a parlé du sang de Jésus-Christ la dernière fois et les fois précédentes, au chapitre 9. On a dit qu'il n'y avait rien de magique dans l'hémoglobine de Jésus, mais c'est dans le sacrifice qu'elle représente. Dieu, c'est le sang de Dieu. Il nous est dit que c'est Dieu qui a acheté son Église avec son sang. le sang de Dieu, et on sait que Dieu n'a pas de sang, mais Jésus, quand il s'est incarné, avait du sang, et c'est son sang qui a coulé. Le sang de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Et je le rappelais, c'est un argument très fort, imparable, pour montrer que Jésus est Dieu. Lorsqu'il est question du sang de Dieu qui a coulé pour racheter l'Église, ce n'est pas du sang dans les nuages qui a coulé, c'est le sang de Jésus sur la croix qui a coulé. Jésus est Dieu, n'en doutez pas un seul instant. Votre salut en dépend. Et donc, on a cette audace de venir parler à Dieu comme à une autre personne avec qui je parlerai, seulement parce que Jésus est passé par là, il nous a donné un libre accès. C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, nul ne vient au Père que par moi ». Les autres religions ont des grands prophètes, ont des grands prêtres, ont même des livres sacrés. Mais Dieu n'a pas dit « C'est par là qu'il faut passer pour me rencontrer ». Jésus a été très exclusif. Les chrétiens sont exclusifs. Pas par choix, mais par révélation. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'ai rappelé que certains pensent que les noms, le chemin, la vérité, la vie, c'était le nom des entrées, d'abord du parvis, ensuite de la porte du lieu saint et de la porte du Saint des Saints. Donc Jésus est en train de nous dire, vous voulez voir Dieu, vous passez par moi parce que je suis le chemin, vous pouvez rentrer dans le parvis, je suis la vérité, vous pouvez entrer dans le saint lieu, je suis la vie, vous pouvez entrer dans le Saint des Saints et être en présence de Dieu. Aucune autre religion n'a cette audace. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est pour ça qu'on veut l'annoncer autour de nous, parce qu'on a été béni, on a été touché, on a la solution. Il dit au verset 20, c'est un accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Encore une fois, c'est Jésus qui a ouvert ce chemin, il est le chemin. Il l'a ouvert comme un chemin nouveau et vivant. Chemin nouveau et vivant, ça ferait un bon titre pour un programme de radio chrétienne. Ça existe d'ailleurs en anglais. Il y a une célèbre émission, A New and Living Way. Un chemin nouveau et vivant. Le mot nouveau, c'est pas le mot nouveau dont qu'on a l'habitude de trouver dans le Nouveau Testament, en grec. Il y a le mot qui veut dire nouveau dans le temps ou nouveau en espèce, néo ou kaino, mais là c'est le mot qui veut dire fraîchement sacrifié. Le passage que Jésus a ouvert, c'est comme un chemin fraîchement ouvert. Le sang de Jésus n'a pas encore séché dessus. Ça, il le disait, près de 40 ans, c'était avant la destruction de Jérusalem, en l'an 70. Donc c'était près de 40 ans après la croix, et il disait déjà que c'était encore du sang qui était frais. C'était encore un sacrifice frais, un fraîchement sacrifié. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, 2100 ans plus tard, ce sacrifice est toujours aussi frais pour nous. Est-ce que devant le sacrifice de Jésus, quand vous y pensez, vous pensez à quelque chose de vieux, de dépassé, de vieillot, ça vous rappelle les vieilles églises avec des vieilles reliques? Dans le sang de Jésus, il est toujours aussi fraîchement versé. Et c'est vrai, quand on regarde dans l'espace-temps, dans si vous laissez votre imagination prendre un peu le vertige, de dire qu'il y a des... L'éternité, c'est très long. Il y a l'éternité passée et l'éternité future. Et comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est très très long, surtout vers la fin. Dans cette éternité, qu'est-ce que c'est que 2000 ans de sacrifice? Mais ça restera toujours un chemin nouveau. Et de plus, il est vivant. C'est un chemin qui est vivant parce qu'il est, Jésus est vivant, mais c'est surtout un chemin vivant parce qu'il nous donne la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et c'est au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile a été déchiré, il nous est dit dans les évangiles, du haut vers le bas, un voile qui était fait en très lourds matériaux, pas le genre de petit tissu qu'on trouve chez Toto, mais quelque chose de costaud. C'était des épaisseurs de peau d'animaux, et c'était un voile qui mesurait la hauteur du tabernacle, qui était près de 5 mètres. Et c'était impressionnant d'imaginer que ce voile avait été déchiré le moment où Jésus-Christ avait été mis à mort. Et là, il est dit que c'était sa chair et le voile, il y avait une corrélation, une connexion, c'était la même chose pratiquement. Par lui, on avait accès à travers le voile. Et on peut être heureux que le voile n'ait pas été simplement relevé. Il aurait pu avoir un système, on appuie sur un bouton, comme lorsqu'on descend le store, on le relève, mais il peut être redescendu aussi vite. Non, là, il a été détruit, il a été déchiré. On a l'accès maintenant, librement. Et nous avons, verset 21, un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Nous avons un grand prêtre maintenant, Jésus-Christ. Tous les autres n'étaient que des pointeurs, que des illustrations de ce qui allait être la réalité. On a vu que tout ce qui était de l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir. Et on a dit, vous pouvez vous contenter de l'ombre ou vous pouvez aller chercher les choses qui sont là maintenant. Nous avons un souverain sacrificateur qui est établi sur la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est là où il habite, c'est là où il règne. Ça peut être dans votre cœur, déjà, pour commencer. Si vous l'avez accepté dans votre cœur, il est le souverain prêtre qui règne là. Et donc, il a rappelé ces cinq points de la nouvelle alliance. Il y a l'accès au sanctuaire, l'efficacité du sang, la route nouvelle et vivante, et le souverain sacrificateur. Et là, il va nous dire ce que nous pouvons faire. Il va utiliser trois impératifs, plutôt deux impératifs. Approchons-nous et retenons fermement. Ça, c'est les versets 22 et 23. Et dans la version française, c'est traduit encore en impératif les versets 24 et 25. Dans le texte original, ce sont des participes présents qui disent « Bon, maintenant, je vous donne ces ordres, et puis faites ça aussi. » Mais la première chose à faire, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Approchons-nous de Dieu. Encore une fois, cet accès a été ouvert, pas pour qu'on s'approche une fois par an, à Pâques ou à Noël, ou deux fois par an, à Pâques et à Noël, ou une fois par semaine, le dimanche matin. Nous, on est appelés à nous approcher moment par moment. On doit s'approcher avec un cœur sincère, c'est le mot qui veut dire authentique. Le mot sincère vient du mot sensir. On explique que les sculpteurs romains, lorsqu'ils vendaient leurs statues à des riches romains, s'il y avait un petit défaut, que le nez avait été un peu mal, il avait fait un éclat dans le nez, qu'il manquait une narine, ils ajoutaient de la cire qu'ils coloraient avec de la pierre de la même couleur et ils refaisaient le nez avec un petit bout de cire. Le problème, c'était que si jamais la statue était au soleil, la cire commençait à fondre et on voyait que ils n'avaient pas été sincères. Ils n'avaient pas été fabriqués sans cire. Donc l'idée, c'est de venir avec un cœur authentique, pur, sans faux semblant, sans paraître, sans chercher à donner le change. Généralement, on donne le change aux autres, on ne se donne pas le change à soi-même et encore moins à Dieu. Avec un cœur sincère qui a besoin, qui veut être en communication avec Dieu, avec une foi inébranlable. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Si votre conscience vous trouble, vous pouvez confesser vos péchés et à Dieu qui est fidèle pour les pardonner et vous purifier. Ça peut être aussi le corps lavé d'une eau pure. Alors, ce n'est pas nécessairement le baptême, mais c'est l'idée que la parole aussi peut nous laver, nous montrer ce qui ne va pas dans nos cœurs, dans nos vies. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi. Il dit ensuite, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Attachons-nous à l'espoir que nous proclamons. Parce que des fois, on peut dire des choses, on peut proclamer des choses et puis pas y croire vraiment. Votez un tel et vous verrez, tous les problèmes vont être réglés. Alors qu'en fait, on sait pertinemment que ça ne va pas changer grand-chose. Mais on doit s'attacher à cette espérance, à cet espoir. Pourquoi ? Par celui qui a fait la promesse et fidèle. Les promesses que Dieu nous a faites, on peut les prendre pour argent comptant. J'aime bien l'anecdote qui dit qu'il y avait un missionnaire qui était désespéré dans son point de mission au fin fond d'une jungle, qui manquait de tout, il ne pouvait pas donner à manger à ses enfants. Et il avait pris la promesse de Dieu que les enfants du juste n'allaient jamais mendier pour de l'argent. Et il priait cette prière. Et à la fin, il était tellement fatigué, il avait pris sa Bible au passage indiqué et il marchait en rappelant à Dieu sa promesse. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi de dire que ce qui est écrit ici, c'est pas des suggestions, c'est pas des « ça serait bien si c'était vrai ». C'est quelque chose sur lesquels vous pouvez mettre votre vie. Et c'est seulement lorsque vous faites confiance et que vous voyez que la confiance est respectée et honorée que vous êtes prêt à aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de connaître les promesses de Dieu. Si vous n'avez pas encore vu, il existe un petit livret des promesses de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. C'est un résumé, bien sûr, mais c'est quelque chose de vital que de connaître les promesses de Dieu. Celui qui a promis est fidèle. Et puis il dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. C'est intéressant, vous vous souvenez que Paul disait qu'il y avait trois choses qui importaient. Il y avait la foi, l'espérance et l'amour. Et que l'amour était plus grand que tout parce que l'amour allait demeurer. Une fois qu'on sera en présence de Dieu, on n'aura plus besoin de la foi pour croire qu'il est là. Une fois qu'on verra les choses, on n'aura plus besoin d'espérer ces choses, mais l'amour, lui, il restera. Il n'y a rien de plus beau, de plus grand que l'amour. Et là, on voit qu'il reprend ces trois éléments. Alors, on ne sait pas, l'auteur, le Saint-Esprit reprend ces trois éléments. On s'approche d'un cœur sincère avec foi, la foi. On confesse l'espérance, sans fléchir, sans douter. On la retient fermement, on l'affirme. Et puis, le point essentiel, c'est de vivre l'amour ici-bas. Et là, il dit deux choses. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. D'autres traductions disent, pour nous provoquer à l'amour. Le mot traduit par inciter ou provoquer, c'est le mot qui nous donne le mot paroxysme. C'est quelque chose, une irritation. Irritez-vous les uns les autres pour de bonnes, à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est un peu curieux, parce que dans notre intelligence, dans notre habitude, quelqu'un qui nous irrite, c'est pas quelqu'un qui nous aime. Sauf si on est irrité à faire le bien, si on est irrité à faire de bonnes choses. Et dis-moi, ça fait plusieurs semaines que je t'ai pas vu au culte, pourquoi tu viens pas là? Qu'est-ce qui se passe? Ou j'ai remarqué, est-ce que tu donnes toujours la dîme à l'église, ou est-ce que tu ne fais plus confiance à Dieu pour tes besoins? Et ça va peut-être nous irriter, mais si ça nous laisse réfléchir, si ça nous met, alors ça doit toujours être fait dans l'amour. Et une vie menée devant les autres pour plaire à Dieu, c'est quelque chose de paroxysmique, quelque chose d'irritant. Souvent, le monde déteste les chrétiens parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que la vie des chrétiens, c'est la vie qu'il faudrait vivre. Mais on trouve plein de justifications pour vivre dans le péché, ne pas chercher à plaire à Dieu, à rejeter l'idée même de Dieu. Et pourtant, Dieu a mis dans nos cœurs le sentiment de l'éternité. On sait, tous les êtres vivants, tous les hommes et toutes les femmes, savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a un Dieu. C'est pour ça que si vous leur demandez, si jamais il existait un Dieu et qu'il y ait un moyen de le connaître, est-ce que tu voudrais le savoir? Ils vont dire oui. Et parce qu'au fond d'eux-mêmes, il y a ce vide existentiel. On dit qu'on est des... La science nous dit qu'on est des accidents cosmiques. Puis la psychologie essaye de nous dire pourquoi c'est important de continuer à persévérer et de faire confiance à l'accident cosmique. Ça n'a aucun sens sans Dieu. Nous inciter à l'amour, donc à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres, et à faire de belles œuvres, à faire des bonnes œuvres, sans abandonner, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Il y a deux façons de comprendre ce verset. Il y a le mot « assemblée » qui est ici, c'est un mot qu'on retrouve seulement une autre fois dans le Nouveau Testament, dans Thessaloniciens, pardon, où il parle de la rencontre avec Christ, du retour avec Christ. Alors certains disent qu'en fait, il ne faut pas abandonner de penser au retour de Christ, mais le sens le plus exact ou le plus naturel, c'est de penser à ne cesser de ne plus venir aux réunions chrétiennes qui sont organisées par l'Église, par les frères, que ce soit des groupes de maison, que ce soit des études bibliques, que ce soit des réunions de prière. Cessons d'abandonner cela, parce qu'il y en a certains parmi vous qui ont l'habitude de le faire. Alors c'est un verset qui m'est très facile de vous prêcher, puisque vous êtes là. Donc vous ne devez pas vous sentir coupable, vous êtes là. Vous n'avez pas abandonné votre assemblée avec les frères et les sœurs. Par contre, les personnes qui entendent ce message sur Internet, je vous dis, venez nous voir plus souvent. Si vous êtes à Nice, N'abandonnez pas notre assemblée comme certains en ont pris l'habitude. Alors sans doute, il y avait ce facteur de peur, la persécution arrivait, et ils disaient, on va revenir à notre ancienne religion, et on va y aller de temps en temps, de moins en moins. Mais là, au contraire, il nous dit, encourageons-nous mutuellement. C'est tellement important de s'encourager les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne manque pas de décourageurs. Si vous parlez d'un projet à quelqu'un, généralement les gens vont vous dire pourquoi ça ne va pas marcher, avant de vous dire que c'est une bonne idée et que allez-y, je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. La foi chrétienne, elle ne peut pas être vécue dans l'isolement. L'isolement peut avoir une partie justifiée s'il est temporaire. L'apôtre Paul, il nous a dit qu'il a passé un temps seul avec Dieu, qui lui a révélé l'Évangile, qu'il a comparé après avec les apôtres. Mais l'idée que la foi chrétienne s'est faite pour être vécue tout seul sur une montagne, c'est complètement faux. Le mot de saint, pour dire ceux qui sont de la foi, ceux qui sont croyants, il est toujours utilisé au pluriel dans la Bible. C'est les saints, c'est l'assemblée, c'est l'église, ça peut être le groupe de maison, ça peut être un partenaire de prière. C'est bien de prier seul avec Dieu, mais on est fait pour confronter nos vies les uns aux autres. Et c'est là ça coince. C'est là qu'on change. Si on est tout seul à vivre notre foi, et vous allez entendre des fois des chrétiens qui vous disent « Je ne vais plus à l'église, il n'y a que des hypocrites. » Eh bien, bienvenue au club. Si vous pensez que vous n'êtes pas hypocrite, vous vous trompez. On est tous, c'est notre vieille nature de vouloir paraître différent de ce qu'on est vraiment. Plus ou moins, et à plus ou moins grande échelle. C'est embêtant si on est candidat à une élection, que ce soit révélé. Mais on est à la base, on a tous cette hypocrisie qui fait partie de la vieille nature. On met un masque. On n'ose pas être tel qu'on est parce qu'on a peur d'être rejeté. Mais une église qui est mature, une église qui est mûre, c'est une église où les gens viennent même lorsqu'ils ne vont pas bien. Il y a des gens qui vous disent « Oh, je ne viens pas en ce moment parce que je me sens vraiment mal. » Raison de plus, tu devrais venir, on pourrait prier avec toi, on pourrait t'encourager. Mais si tu restes de ton côté, on ne sait pas où tu es, on pense que peut-être tu vas dans une autre église qui est plus proche de chez toi ou qui s'est ouverte il y a quelque temps. On doit vivre notre foi ensemble pour s'encourager mutuellement. Une des expressions qui revient et qui revient dans le Nouveau Testament, c'est les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, fortifiez-vous les uns les autres, reprenez-vous les uns les autres. Et il nous dit, faites ceci d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De quel jour parle-t-il? On peut penser qu'il parle du jour où Jérusalem allait être détruite. On pense que c'était dans quelques années que les troupes romaines sous le général Titus de l'empereur Vespasien allaient prendre et détruire Jérusalem, faire le siège de la ville et détruire le temple, détruire la ville. Ou alors, c'est pour nous, aujourd'hui, c'est le jour de son retour. Est-ce que vous trouvez que le temps passe vite? Il y en a qui ont le sentiment que le temps passe vite. C'est drôle, c'est les plus anciens. Et c'est vrai que quand on est jeune, on a la vie devant soi. Mais même les vacances, quand j'étais gosse, les vacances avaient l'air d'être une éternité. À l'époque, c'était vrai, c'était 3 mois de vacances. 30 juin jusqu'au 30 septembre. Mais même 2 mois, c'était long. Et maintenant, on est déjà... Demain, c'est le 1er mai. Il me semble qu'hier, c'était à peine Noël. Ça va de plus en plus vite. Et ça veut dire que le jour du retour de Christ, il arrive à la vitesse grand V. Si on n'est pas pris par la mort, et à ce moment-là, on sera en sa présence, mais rachetons le temps. Et pour racheter le temps, ça veut dire de s'encourager, de vivre l'amour de Christ en affirmant notre foi, en affirmant notre espérance, en nous attachant à elle. C'est le véritable adorateur, disait un auteur, il doit avoir le cœur sincère, il doit être habité d'une plénitude de foi, il doit avoir le cœur purifié et le corps lavé par l'eau pure. Et à ce moment-là, il peut s'approcher de Dieu, il peut s'attacher à son espérance et à veiller les uns sur les autres. C'est une belle expression. Est-ce que vous avez le sentiment que chaque chrétien, vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux? Par la façon dont vous vivez, par la façon dont vous les encouragez, ou est-ce que vous venez ici en vous demandant qu'est-ce que vous allez pouvoir bien recevoir de ce système, de cette église, de cette louange, de cet enseignement, de ce temps après? Ou est-ce que vous venez en disant, tiens, je sais qu'il y a un tel qui traverse une épreuve, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je sais que Élie a été opérée, qu'elle n'est pas en état de préparer des repas pour sa belle famille, sa grande famille. Qu'est-ce que je peux faire pour veiller sur Sébastien et ses enfants? Désolé Sébastien, je te mets sur la sellette. Mais c'est pour dire que tout ça, c'est pas éthéré, c'est pas quelque chose de grandiose, qui est beau, on en parle et puis on fait rien d'autre. Non, c'est pour vous dire que c'est là où en anglais on dit « le caoutchouc touche la route ». C'est réel, ça doit être du vécu, ça doit être du ressenti. On nous donne toutes ces explications, toute cette théologie, toutes ces vérités. Jésus-Christ est supérieur à toute autre personne qu'on puisse imaginer. Il n'y a rien de mieux que de le suivre et de vivre pour lui. Et voilà comment ça doit se traduire. On peut s'approcher de Dieu. Avant, c'était comme une salle de chirurgie où personne ne pouvait entrer. Vous êtes déjà allé rendre visite à quelqu'un qui est en salle de réanimation. Au passage, je signale que Anaïs est sortie du coma, qu'elle va bien, on m'a demandé, et je m'excuse de ne pas l'avoir publiquement signalé, elle est en rééducation à Vence, et elle est en très bonne voie, on remercie Dieu pour ses réponses. Mais on ne peut pas rentrer comme ça dans la salle de réanimation. Il y a des signes qui disent « interdit à toute personne étrangère au service ». Il faut appeler, il faut avoir le code pour appeler quelqu'un qui vous dit « bon, ben vous pouvez rentrer, mais il va falloir vous habiller, il va falloir mettre un chapeau, des chaussettes sur vos chaussures, mettre une blouse, vous attacher, vous laver les mains, accès interdit, à la limite, on vous laisse rentrer. » Et là, maintenant, c'était ça pour les Juifs, c'était interdit d'entrer. Et maintenant, ils nous disent « venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Et on est là, oh, j'ose pas m'approcher, je veux pas. Et puis on nous dit, bon ben voilà ce que ça doit faire, ça doit vous donner de la foi, l'espérance et l'amour. Et on est toujours là, oh, je sais pas. Non, c'est merveilleux à vivre. Amen. Prions. Seigneur, tu as fait tant pour nous, Seigneur. rien ne t'y obligeait. Tu nous avais créés, Seigneur, et nous sommes révélés des créatures rebelles. Tu ne voulais pas nous forcer à t'aimer, tu voulais que ce soit notre cœur qui décide de t'aimer. Mais toi, tu nous as aimés parce que tu as envoyé ton Fils, tu es venu en la personne de ton Fils mourir pour mes péchés. Il a versé son sang, il a ouvert le voile qui fait que maintenant je peux venir à toi, je peux à tout moment être en ta présence. À tout moment, je peux te dire ce qui ne va pas. À tout moment, je peux solliciter ton aide. Tu as même dit, on l'a vu plus tôt dans ce livre, dans cette lettre, que tu accours au moindre cri de notre part, Seigneur. Nous sommes comme un bébé qui pleure et la maman accourt au milieu de la nuit pour venir voir ce dont nous avons besoin, ce qui ne va pas. Seigneur, aide-nous à être ces bébés pour toi, Seigneur, à te dire tout ce qui ne va pas, à te remercier pour tous les bienfaits que tu nous donnes, à être en communication permanente, Seigneur. On n'a plus besoin d'attendre une fois l'an l'opportunité, et encore, il faut être le grand prêtre, il faut avoir offert des sacrifices. Seigneur, tu nous as créés et tu veux avoir cette relation qu'il y avait dans le jardin avant que Adam et Ève ne tombent dans le péché, Seigneur. Tu marchais avec eux dans le jardin, Seigneur. Donne-nous tous de pouvoir vivre davantage cette communion intime avec toi, Seigneur. Et Seigneur, pardonne-moi si je ne vis pas cette communion intime de moment en moment, comme je le devrais. Merci Seigneur de me reprendre, merci de nous reprendre Seigneur, de nous montrer qu'en fait tu as tout fait pour que nous vivions intensément, pleinement, en ta présence avec toi, en te disant tout, en recevant tout de toi Seigneur. Aide-nous à connaître tes promesses car tu es fidèle pour les tenir Seigneur. Aide-nous à garder cette foi dans tout ce qui nous a été révélé Seigneur. Et surtout Seigneur, aide-nous à vivre dans l'amour, à regarder chaque autre frère et sœur, et même ceux qui ne te croient pas comme des frères ou des frères et sœurs potentiels, Seigneur, sur lesquels nous devons veiller, Seigneur, avec bienveillance, pas malveillance, en parlant de veillance. Seigneur, nous voulons être bienveillants envers nos frères et sœurs, Seigneur, et chercher à les établir en toi. Chercher à les réconforter, chercher à les encourager, pour qu'eux-mêmes, à leur tour, soient des encourageurs pour d'autres, Seigneur, et qu'ainsi ton royaume s'agrandisse, Seigneur. C'est notre prière, c'est notre souhait, Seigneur. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.